Vendredi dernier, je suis sortie dans la rue vers 18h. À cette heure-là, la nuit est tombée. Et en passant au carrefour Jean Jaurès, à côté, je suis tombée nez à nez avec un petit garçon d'environ 10-11 ans. Ce petit garçon avait le regard levé vers le ciel et il découvrait la lune qui était toute fine dans son premier croissant, dans le ciel sombre, mais pour une fois sans nuages. Et ce petit garçon a poussé un cri d'émerveillement. Nos regards se sont croisés et je lui ai dit « Elle est belle, hein ?» Petit moment de joie, fugitif, mais bien réel. Moment d'émerveillement, d'autant plus beau qu'il était partagé. Lever les yeux vers le ciel m'a amené à comprendre la joie de ce petit garçon. Lever les yeux vers le ciel, c'est regarder ensemble vers l'origine de notre vie et de notre univers. Les mages, qui n'étaient pas des rois, en faisaient leur occupation principale. Quel âge ont les étoiles que nous regardons depuis la Terre? Des millions, voire des milliards d'années. Et même si nous les voyons avec un fort décalage, parce que la lumière met du temps à arriver, la plupart sont encore vivantes. Les mages ont découvert une nouvelle étoile. Et à cette époque-là, on l'interprétait comme l'arrivée d'un nouveau roi. Eh bien, regarder les étoiles les a menés loin. Cela les a amenés à quitter leur maison, leur pays, pour aller dans l'inconnu. Ils se sont laissés guider. Alors suivons-les, en particulier dans ce qu'ils voient. On nous dit trois fois qu'ils ont vu l'étoile. La première fois au verset 2, quand ils arrivent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. La deuxième fois au verset 9, voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux. Et au verset 10, à la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. Voici trois fois où on nous dit que les mages voient cette étoile qui les guide. Où les mènent-elles? Elles s'arrêtent au-dessus d'une maison. Oui, on n'est plus à l'étable, on est dans une maison chez Matthieu. Et c'est là qu'ils vont entrer. Eux qui ont parcouru des centaines de kilomètres, qui ont donné de l'importance à cette nouveauté qui les a fait sortir de chez eux, eux qui ont les yeux tournés vers le ciel, que vont-ils voir dans cette maison? Alors le texte dit, entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Voilà à quoi mène le regard vers les étoiles. À un petit enfant qu'on ne peut regarder qu'en baissant les yeux. Ils ont baissé les yeux jusqu'à lui. De la grandeur du ciel, du chemin parcouru, ils se prosternent. Et le texte ajoute même qu'ils tombent et se prosternent. Ils descendent de leur grandeur pour rejoindre le petit bébé qui vient de naître. Ils se mettent à sa hauteur. Quel paradoxe! Ils ont dit à Hérode qu'ils cherchaient le roi des Juifs, et le roi des Juifs dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même. Et Dieu se fait petit enfant. Lui qu'on attendait tout puissant, roi tout puissant, il se glisse dans la peau d'un petit être humain, nu, démuni, dépendant, limité. Cet enfant ne sera pas puissant en force. Il sera puissant en amour. Sa puissance d'amour attire vers lui les mages qui se mettent à genoux. Les mages ont regardé vers les étoiles et une étoile les a guidés vers cet enfant. Et pour la suite de l'histoire, dans leur sommeil, Dieu les avertit de ne pas retourner vers le roi humain, Hérode. Ce qui est dangereux, ils ont compris qu'ils pouvaient l'éviter. Désormais, c'est un autre roi qui comptera pour eux. Celui à qui ils ont offert l'or, symbole de la royauté, l'encens, symbole de la prêtrise et de la relation à Dieu, et la myrrhe, qui est utilisée pour l'embaumement, annonçant la fin tragique de Jésus. Les mages s'inscrivent dans les premières rencontres avec cet enfant qui va bouleverser le monde jusqu'à notre calendrier. Jésus sera celui à partir duquel on compte nos années. Il y a quelques jours, nous sommes donc passés en 2025 après Jésus-Christ. Le passage d'une année est l'occasion de partager des vœux, de se souhaiter une bonne année, on se souhaite des bonnes choses, ce sont des bénédictions. C'est l'occasion de se demander ce qu'il nous faut vraiment pour notre bonheur. Alors dans les vœux que je reçois, je suis frappée d'entendre combien beaucoup présentent leurs vœux en partant de l'année qui vient de se terminer. Comme si chaque année allait toujours plus mal. On parle d'année terrible. Le monde va-t-il vraiment plus mal? Le monde dans lequel Jésus est né était-il meilleur? Un monde cruel qui permettait la crucifixion? Le monde de mes grands-parents qui ont connu deux guerres était-il meilleur? Alors, en ce début d'année, vous avez entendu cette ironie de prendre ce texte de l'Ecclésiaste qui nous dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Ce texte a été écrit quand même deux siècles avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui est pareil et peut-être qu'est-ce qui est nouveau? Il nous dit « la terre subsiste toujours, le soleil se lève et se couche, les torrents vont à la mer et la mer n'est pas remplie ». Le cadre de notre vie est toujours là. Et c'est bien le plus important quand même, que le soleil continue à se lever tous les matins et se couche tous les soirs. Quel bouleversement ce serait si ça n'était pas le cas. Et un petit garçon peut toujours s'émerveiller devant un croissant de lune. Ce qui est nouveau, c'est l'impact des actions humaines sur la destruction de notre maison commune, la fonte des glaciers, la disparition de notre biodiversité, l'immigration due au désordre climatique, et j'en passe. Et pourtant, on peut continuer à s'émerveiller devant les beautés de la nature. Beauté visible ou invisible, fonctionnement ingénieux des plantes ou des animaux qui mettent en place des stratégies pour survivre. S'émerveiller sur quelque chose, c'est déjà l'aimer et vouloir le sauvegarder. S'émerveiller, c'est comme si on suivait les mages. Suivre une étoile en levant les yeux haut dans le ciel, c'est se laisser attirer par celui qui se fait lumière dans le malheur du monde, en bas, sur notre terre. C'est vivre au quotidien en même temps un regard qui prend de la hauteur et en même temps un regard d'amour et de compassion qui se porte vers les choses et les gens que personne habituellement ne veut voir. Oui, nous sommes mis au défi d'aimer le monde. Aimer notre cadre de vie au point d'accepter les efforts de sobriété que cela nous demande. Mais aimer aussi et surtout les êtres humains que Dieu y a placés, nos prochains. Si on continue la lecture de l'Ecclésiaste ou des prophètes, une autre chose n'a pas changé, c'est le cœur de l'humain. Sa capacité à hésiter entre le bien et le mal, à se laisser aller à la lâcheté, voire à pencher vers le mal, vers la violence, la concurrence, la compétition des existences au point d'écraser l'autre et l'amour de l'argent. Mais le défi que Dieu nous demande de relever, c'est de nous émerveiller devant la beauté du monde, devant les actes d'amour et de solidarité qui permettent à l'humanité de continuer à vivre tout autour de la terre. Combien de petits gestes se font tous les jours pour prendre soin les uns des autres. Si nous arrivons à nous en émerveiller, alors nous pourrons témoigner que l'amour de Dieu est la source de tout amour, même si on ne le connaît pas. De tous ces gestes de bonté et que Dieu continue à agir sur la terre. Est-ce que je vais arrêter mon regard à tout ce qui va mal, comme si je ne savais pas qu'au-delà des nuages qui passent, il y a un soleil brillant, presque immuable. Regardons plus haut. Oui, le monde va mieux qu'avant. Simplement, nous nous y habituons. Et c'est peut-être cela le travail des générations, de prendre le monde tel qu'il est et de vouloir toujours l'améliorer. Tant mieux. Il y a encore un pays, j'ai plus en tête, j'ai pas noté, il y a encore un pays qui a rejoint plus de la moitié des pays qui ont aboli la peine de mort dans le monde. Il y a plus de pays qui ont aboli la peine de mort que de pays qui la maintiennent. Est-ce que nous pouvons nous en réjouir? C'est un vrai progrès. Regarder plus haut nous permet de prendre du recul au niveau du temps et de l'espace. Le temps s'est accéléré, mais nous savons que l'humain a besoin de temps pour vivre la verticalité de sa vie, c'est-à-dire la hauteur, comme la prière vers Dieu, et puis la profondeur, comme le retour vers soi-même, pour prendre des décisions et regarder où est l'essentiel de notre vie. Et puis dans l'espace, dans la géographie du monde, eh bien nous savons que les populations sont appelées à se mélanger de plus en plus. Tout est connecté. Et c'est à nous maintenant de trier les informations qui nous arrivent et de les interpréter avec intelligence. Prendre de la hauteur, c'est se rappeler le choix que Dieu place devant nous. Il nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. » Et Dieu nous demande « Choisis la vie afin que tu vives. » Et choisir la vie, c'est rester dans l'espérance apportée par l'homme Jésus. Dans la lettre aux Éphésiens, nous entendons que Dieu nous sauve par son amour immense, un amour toujours présent, un amour gratuit, que Dieu désire vivre dans sa relation personnelle avec chacun et chacune d'entre nous. Il nous dit aussi que par cet homme Jésus, nous sommes créés, nous sommes des êtres nouveaux. Nous sommes créés pour des œuvres bonnes, mais ces œuvres ne sont pas à tirer de notre imagination et nous n'en avons à tirer aucune gloire parce que c'est Dieu qui nous les prépare. Dieu a besoin de nous, il a besoin de notre engagement dans ses œuvres bonnes. Il a besoin que nous connaissions la part des ténèbres dans le monde pour faire advenir la lumière, pour être le sel de la terre. Que sont-elles ces œuvres ? Des actions faites par amour et qui suscitent l'amour. Des actes et des paroles d'espérance qui suscitent l'espérance. Des témoignages de joie qui suscitent la joie, comme celui de l'enfant qui regarde la lune. Des décisions et des gestes de paix qui produisent la paix. Commençons dès aujourd'hui, non pas par nos propres forces, mais en marchant, main dans la main, avec le Christ, maintenant. Amen.